Bonsoir. L'Assemblée nationale a jugé mardi 1er novembre recevable le projet du budget exercice 2023 après les réponses du Premier ministre aux préoccupations des élus. Ce projet de loi des finances est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Il sera envoyé à la Commission économique et finances pour poursuivre les travaux d'approfondissement. Le bureau a décidé d'octroyer à cette commission un délai de 15 jours pour finaliser les travaux. Que pensez-vous de la recevabilité du projet de budget 2023 par l'Assemblée nationale? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 2 novembre 2022. Participe au débat, Pacisa Pamba, député national, membre de l'Union sacrée de la Nation. Il est membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale, mais également vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC. Monsieur Pacisa Pamba, bonsoir.
Bonsoir, madame le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Lucas Kiasongo, député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD, membre du Front commun pour le Congo, il est membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Professeur Lucas Kiasongo, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs de ce soir.
Maître Yves-Michel Biassalou, coordonnateur national de la plateforme citoyenne et électorale dénommée Vigilance 2023, est aussi avec nous dans ce débat. Maître Yves-Michel Biassalou, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue également tous les auditeurs de Okapi Congo, merci.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, l'Assemblée nationale a jugé mardi 1er novembre recevable le projet du budget exercice 2023. Rappelons que dans la présentation de l'économie de ce texte, le Premier ministre avait souligné que le budget 2023 est élaboré dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC et à Kwamout, de la grogne sociale avec multiples grèves, mais aussi de la crise alimentaire occasionnée par le caractère dépendant de notre système alimentaire. Mais comment sont répartis ces 14 milliards de recettes du budget 2023? Michel Kifinda nous en parle.
D'après l'analyse du document 6 du projet du budget 2023, sur les 14 milliards de dollars, le gouvernement affecte plus de 33% aux dépenses des administrations publiques, 22% aux affaires économiques, 18% à l'enseignement et 10% à la santé. La défense sera assurée avec près de 7%, alors que la justice, l'ordre et la sécurité publique avec environ 5% du budget. Des 33% de l'administration publique, la présidence, le gouvernement et les parlements ont près de 8%, environ 10% aux affaires financières et budgétaires et 3% à l'organisation des élections. Sur les 22% des affaires économiques, près de 6% sont affectés à l'agriculture et l'élevage, 3% au développement rural, 2% au transport ainsi que près de 2% aux travaux publics. Quant aux 18,49% de l'enseignement, les secteurs de base, EPSP et SU, ont tous ensemble moins de 5%. De même, sur les 10% de la santé, moins de 2% seulement sont affectés au fonctionnement de tous les services sanitaires de base. Reste à savoir à quoi vont servir concrètement les 22% du budget affectés aux autres affaires concernant l'enseignement et la santé.
Pacisa Pamba, je rappelle que vous êtes député national, membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Vous avez jugé recevable le projet de budget 2023. Qu'est-ce qui vous a motivé à juger recevable ce projet de budget? Parce que le Premier ministre est membre de votre plateforme politique, je parle de l'Union sacrée, ou parce que ses réponses sur la répartition de ce budget vous ont convaincu?
Merci, madame la journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez d'intervenir sur cette grande radio de renommée internationale. Je dois vous dire que juger recevable le budget de l'État ne doit pas faire partie des acquaintances ou des appartenances à une famille politique ou peut-être des sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis d'un premier ministre, si Sama Lukonde soit-il. Le plus important est de retenir que le budget, c'est un acte politique, c'est aussi un acte de prévision, mais également c'est l'instrument de gestion de la République. Et lorsqu'on l'amène au Parlement, nous avons l'obligation de regarder non les individus qui ont amené, mais la vie de la République dans son ensemble. Vous avez suivi que le Premier ministre lui-même a dit à l'opinion nationale et internationale que ces prévisions sont élaborées dans un contexte de crise. Et vous-même, vous savez que notre pays aujourd'hui, à l'Est, une partie de notre pays est occupée par le Rwanda, et qu'on qualifie de M23. Et donc, de l'autre côté, vous savez également qu'il y a la crise sécuritaire à Kwamutu. Et donc, tous ces éléments ne peuvent permettre aux élus que nous sommes, la représentation nationale, c'est de permettre au gouvernement de la République de pouvoir réunir les moyens dont il a besoin pour qu'il fasse d'abord face, pour qu'il puisse rencontrer les préoccupations de base de la population. Et d'abord, la population actuellement a un besoin sécuritaire pressant, parce qu'une partie de notre pays aujourd'hui est occupée et envahie par des armées étrangères. Et donc, il y a un besoin sécuritaire. Il y a aussi d'autres besoins sociaux qui sont prioritaires aujourd'hui pour le peuple congolais. Et donc, dans ces conditions-là, même si nous avons des exigences, même si nous pensons que ce budget n'est pas encore à la hauteur du grand Congo qui nous appartient, et donc nous ne pouvions que permettre au gouvernement d'avoir ce budget, de les décortiquer très rapidement et de pouvoir permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique.
Peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas suivi le débat à l'Assemblée nationale, Patrice Apamba, quelles sont les vraies priorités de ce budget?
Bien, vous connaissez la vision du président de la République. Et il a dit le peuple d'abord. Et quand on parle du peuple d'abord, aujourd'hui, en marge de tout ce que nous connaissons, la santé, l'éducation, et les besoins sociaux de base, il y a la sécurité du citoyen congolais. Tant que les armes crépitent à l'Est, tant qu'il y a des déplacés internes, tant que tous ces éléments-là sont perturbés, vous allez vous rendre compte que même les PIB sur lesquels se calculent les impôts, tout sera perturbé. Parce que aujourd'hui, en regardant d'abord ce qui a été présenté comme les 14,6 milliards de dollars, et on parle d'un accroissement de 32,7% par rapport aux prévisions de 2022. Mais en temps normal, moi, même si je suis de l'Union Sacrée, je pouvais dire que ce n'est pas suffisant par rapport à toutes les potentialités que regorge notre pays. Mais devant des circonstances comme celle-là, que nous impose l'environnement externe de notre pays, et sous le silence coupable de la communauté internationale, vous devez vous rendre compte que sur le plan interne, nous devons nous organiser pour rencontrer d'abord les besoins sécuritaires et ensuite les besoins sociaux de base.
Merci, Passi Zapamba. Lucien Kasongo, vous êtes député national et secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD, membre du Front commun pour le Congo et membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Professeur Lucien Kasongo, votre point de vue sur la recevabilité de ce projet de budget 2023.
Merci madame, je salue l'honorable cher collègue Pazza Pamba qui est en face de moi. Et comme vous le savez madame, le budget est un acte de haute portée politique. L'Assemblée nationale constituée par une majorité qu'on a fabriquée au cours de la législature, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose que la recevabilité de ce projet du budget, parce que rejeter la recevabilité, c'est de retirer la confiance au gouvernement qui est l'émanation de cette majorité. Donc, nous, on ne s'attendait qu'à ça, quelles que soient les conditions, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la recevabilité du budget, ce qui nous intéresse, c'est le social du peuple congolais. Parce que vous savez vous-même, la chanson ou le slogan « peuple d'abord », alors qu'aujourd'hui, c'est le ventre d'abord. Raison pour laquelle recevoir le budget en est une chose, mais répondre aux besoins de la population en est une autre. Ce qui intéresse pour nous, ce n'est pas la recevabilité du budget. Ce qui nous intéresse, c'est de voir demain donner de l'eau, de l'électricité au peuple congolais et mettre fin à l'insécurité à l'est de la République. Ce sont là les priorités qui nous occupent pour le moment. Et la recevabilité, c'était...
Le Premier ministre l'a dit dans son discours qu'on a tenu compte de tous ces paramètres lors de l'élaboration du budget.
Ce n'est pas le premier budget qu'on adopte, madame. On en a toujours adopté. Mais si vous voyez, il y a toujours une inadéquation avec les discours qu'on prononce et l'applicabilité de ces discours sur terrain. Vous savez vous-même combien de taux de desserte en électricité, en eau potable... Et les conditions de travail de magistrats, de militaires, de médecins, de professeurs, des universités, c'est ce qui nous occupe, qui nous préoccupe pour le moment. La recevabilité, ce n'était pas quelque chose qu'on doutait. On savait que la majorité allait recevoir ce budget. Et c'est parce que le gouvernement et les émanations, et on ne pouvait nous attendre qu'à ça. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la recevabilité, c'est la suite de ces budgets.
Mais la répartition telle qu'elle a été faite par le Premier ministre, ça ne vous convainc toujours pas qu'il y a ce souci-là de voir le social de la population s'améliorer et mettre fin à l'insécurité dans la partie est du pays?
Madame, vous avez suivi vous-même la loi de reddition des comptes. Comment on a exécuté le budget de 2021? Ce budget n'était presque pas exécuté. Il y a les rubriques qui ont... été carrément oublié et il y a certains services qui se sont octroyés plus de 100% d'exécution du budget de leurs prévisions et pour les autres 2%, 10%. Donc c'est ce que j'ai dit que nous n'espérons rien de ces budgets. C'est l'argent qui va servir à faire de fêtes comme nous le voyons chaque jour.
Vous le dites... Parce que vous êtes de l'opposition, vous jouez votre rôle d'opposant, de rejeter tout ce que le gouvernement présente.
Nous sommes une opposition républicaine, nous ne sommes pas une opposition de l'opposition. Nous apprécions là où c'est bien fait, là où c'est mal fait, nous décrions. Et depuis le début, vous êtes témoin de ce qui se passe sur le terrain. Les magistrats en grève, les professeurs en grève, les ceci en grève. Donc ça atteste à l'est la guerre. Est accentué, ça atteste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas seulement parce qu'on est de l'opposition, c'est parce que nous voyons ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous voulons que le gouvernement qui est responsable de ce qui se passe au pays puisse résoudre le problème de l'insécurité aujourd'hui. Si vous voyez le budget de 6,5% pour la défense nationale, alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des moyens conséquents pour faire face à l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. L'année passée, le budget était de 3,5%. Qu'est-ce qu'on a eu comme exécution de ce budget? Qu'est-ce que ça donnait sur terrain? Maintenant, si on fait x2, est-ce que ça aura de l'impact? Ça va nous amener quel matériel militaire? Et toutes ces questions-là, moi, je pensais que si on a besoin d'avoir la sécurité à l'Est, la commission qui doit se mettre au travail
doit revoir les budgets alloués à la défense. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes préoccupés par la situation de l'Est. Et cette situation demande des moyens conséquents. Il faut faire des coupes dans des rubriques inutiles pour qu'on puisse accroître le budget de la défense pour assurer la sécurité de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de l'intégrité. Nous avons besoin de que la population vive en paix. Voilà pourquoi nous voulons que la défense soit la priorité de priorité aujourd'hui.
7%, c'est insignifiant pour vous?
Il fallait, ouais, 6%, c'est insignifiant, ce n'est pas 7%, c'est
près de 7%.
Quelque chose.
Près de 7%.
Et voilà pourquoi, si l'année passée nous étions à près de 4%, aujourd'hui nous sommes à près de 7%. Vous pouvez voir sur le terrain qu'est-ce qui a été fait avec le 4%, et pour ajouter le 3% ou le 2%, pour avoir quel résultat, raison pour laquelle nous demandons à la commission qui va se mettre au travail de revoir à la hausse le budget de la défense. Si on peut l'amener même à 10, 11%, ce n'est pas mauvais, parce qu'aujourd'hui, la priorité doit être la guerre à l'Est, et cette guerre qui est provoquée par les signatures des contrats, des traités ou des engagements, et voilà aujourd'hui où nous sommes.
Maître Yves-Michel Biasselou, coordonnateur national de la plateforme citoyenne et électorale dénommée Vigilance 2023, 14,6 milliards de dollars américains. C'est le projet de loi des finances pour l'exercice 2023. Que pensez-vous de la recevabilité de ce projet par l'Assemblée nationale?
Oui, madame, merci beaucoup de m'avoir associé à cette réflexion. Il est évident que le budget de 14,6 milliards, c'est quelque chose par rapport au budget de l'année dernière. Mais cependant, quant à la recevabilité, je crois que tout à l'heure, ceux qui m'ont précédé l'ont quand même dit d'une manière ou d'une autre. La recevabilité dépend de la forme du travail et du fond. Et je crois que les députés, vous avez suivi le débat comme moi, le temps imparti à l'Assemblée nationale pour examiner ces budgets avait déjà été dépassé, parce que l'Assemblée nationale avait 40 jours pour faire un bon examen, mais vous avez vu à quel moment le président de l'Assemblée a convoqué ce débat. Vous pouvez compter le nombre convaincu que ce dépassement était intentionnel. C'était juste pour ne pas permettre à tous les députés de pouvoir interagir ou de pouvoir opiner par rapport, n'est-ce pas, à ce débat. C'est pour autant dire que le débat n'était pas complet dans la mesure où beaucoup de députés n'avaient pas eu le temps de pouvoir discuter autour de ce budget. Et vous avez vu comment la loi de la majorité a pu mettre tout le monde mal à l'aise, parce que il suffisait que les gens disent « nous sommes pour la recevabilité » pour que le débat s'arrête. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'un débat républicain peut se passer. Il faut laisser le temps à tout le monde de pouvoir améliorer le travail qui a été fait, parce que c'est un budget qui va dans le cadre des projets publics. Il faudrait donner le temps à tout le monde de pouvoir opiner. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous avons vécu une recevabilité de vitesse. Que voulez-vous? La loi de la majorité, on n'en peut rien, parce que c'est pratiquement la frange Union Sacrée qui fait la loi à l'Assemblée nationale.
3% alloués à l'organisation des élections, près de 7% alloués à la défense. Beaucoup de Congolais critiquent quand même le fait qu'on alloue très peu de pourcentages comme ça aux secteurs qui sont quand même importants pour la RDC, comme la défense et l'organisation des élections. Est-ce que vous partagez cette petite déception de ces Congolais?
Oui, je partage, parce que moi j'interviens en tant que citoyen, je ne suis pas d'une institution quelconque, nous sommes citoyens, on est observateurs, mais je pense que il faudrait réfléchir plus en termes de priorité. Tout à l'heure, Monsieur Louken Kasongo l'a dit, donc il y a des priorités sur lesquelles devait être concentré un grand budget, notamment la sécurité, évidemment les élections, il y a aussi cette question de la vie sociale. Et lorsque vous voyez ce qu'il y a et comment la répartition a été faite, je pense qu'il y a quand même un travail qu'il faudrait refaire. Vous l'avez dit à l'introduction de votre émission, que ce budget a été envoyé, n'est-ce pas, à la commission ECOFIN pour pouvoir approfondir. Je crois que les 15 jours qui sont impartis à l'ECOFIN sont assez suffisants pour permettre à ce qu'un rééquilibrage puisse se faire, afin que cette crainte-là populaire qui commence déjà à pouvoir sortir de l'horizon puisse être maîtrisée. Donc je crois qu'il appartient à l'ECOFIN maintenant d'essayer de faire un redressement pour permettre à ce que le travail soit beaucoup plus palpable.
Passi Zapamba, il y a des auditeurs qui sont nombreux à nous écrire et même à nous appeler. On va en prendre quelques-uns, en commençant par celui qui nous appelle depuis Bukavu, au sud Kivu. Il a des préoccupations, on va le prendre pour vous.
Je réponds par le nom de Magené Jules, je suis dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. D'entrée de jeu, je tiens à féliciter le gouvernement congolais et l'IGF pour cette montée en puissance de notre budget 2023. Je suis d'accord que ce budget soit recevable, mais je suis en train de m'acharner du fait que le budget ne donne pas la chance à tous les Congolais de se retrouver. D'autant que la grande somme de ce budget est affectée dans des secteurs qui mettent aujourd'hui le pays à genoux. Au-delà de ça, je voulais aussi appeler la confiance de nos gouvernants de multiplier leurs efforts, d'avoir l'amour, d'affecter chaque 100 francs où il est affecté. Et l'IGF de multiplier ses stratégies, de démasquer tous ces mondes-là qui sont encore en cachette avec des détournements, à nos députés aussi de voter les lois qui donnent aussi l'occasion à la population lambda donc de se retrouver.
Pasi Zapamba, cet auditeur félicite le gouvernement congolais et l'IGF pour cette performance, c'est-à-dire pour ce budget de 14,6 milliards de dollars américains. Vous allez répondre à sa préoccupation, mais juste une petite question en passant très rapidement. Qu'est-ce qui est réellement à la base de l'accroissement du budget? Est-ce l'IGF, est-ce la bonne gouvernance, le code minier?
Madame, merci. Je commence d'abord par notre compatriote Gilles qui exige à ce que l'on puisse accorder la chance à tous les Congolais de jouir quand même de ce budget, tout comme les efforts qui doivent être fournis pour l'équité entre les citoyens congolais. Et donc mon compatriote a pleinement raison, parce que lorsque vous regardez depuis la nuit des temps, les budgets votés dans ces pays sont pour la plupart consommés dans le milieu urbain, ignorant que la plus grande population de notre pays se trouve dans les milieux ruraux. Et même dans les milieux urbains, c'est une catégorie de personnes. Et c'est en ce moment-là que nous disons à tous ceux qui nous suivent, que ce soit le gouvernant, que ce soit nous-mêmes qui parlons, que ce soit tous les autres Congolais, nous devons essayer cette fois-ci d'être un peu disciplinés. Et cette discipline surtout c'est de la part de ceux qui doivent exécuter le budget, parce que nous n'allons pas avoir des extraterrestres pour venir améliorer les conditions sociales des populations. Quand le président de la République dit les peuples d'abord, vous savez que tous les compatriotes, que ce soit mes co-débatteurs, ils reviennent d'abord sur la sécurité. Ils reviennent sur les besoins sociaux de base. Et Gilles insiste à ce qu'il y ait équité. Je crois que tout ceci amène les uns et les autres à veiller sur le respect des textes qui s'imposent à tous, à nous tous. Parce que je disais qu'en temps normal, même si je suis de l'Union sacrée, j'aurais été la première personne à récuser ce budget. Mais dans les circonstances particulières comme celle-ci, et donc nous devons tous nous souder et conseiller aux uns et aux autres la transparence, la traçabilité et l'équité. Il faut que l'on abandonne les vieilles habitudes qui font aujourd'hui que l'on puisse décrier tout ce que nous avons vu dans la reddition de comptes. Alors, pour ce qui est de l'accroissement, je veux pas surtout me pencher sur l'environnement économique qui a été favorable, mais il faut aussi louer les efforts fournis par l'inspection générale de finances. Je crois que quand je suis intervenu du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, j'avais évoqué le fait que les contrôles est le commencement de la bonne gouvernance. Parce que parmi les citoyens congolais, surtout ceux qui sont en train de gérer, mais il y a encore beaucoup de délinquants financiers. Il y a encore beaucoup de gens qui foulent au pied même la vision du président de la République. Et donc, il nous revient à nous, au Parlement, de renforcer le travail commencé déjà par l'inspection générale des finances. Parce que j'avais évoqué dernièrement que les contrôles politiques sont au-dessus de tous les autres contrôles. Mais malheureusement, je n'ai pas peur de le dire que le contrôle est encore faible au niveau du Parlement et je crois que les citoyens congolais doivent exiger du Parlement un contrôle qui puisse permettre à ce que nous puissions aller au-delà même de 14 millions. Je vais évoquer par exemple un fait. Si nous prenons seulement sur le plan économique la pression fiscale qui existe aujourd'hui en moyenne en Afrique, si je parle de l'Afrique centrale, cette pression fiscale tourne autour de 20%. Mais dans le budget actuel en République démocratique du Congo, la pression qui a été adoptée est de 14%. Pourquoi ne pas alors penser à amener cette pression-là au niveau de 17, de 18% et voir quand même un budget. Mais aussi, ça me fait penser aussi aux opérateurs économiques dans notre pays. Dans notre pays, les opérateurs économiques ne travaillent que pour eux et la plupart sont véreux. Mais ils sont véreux parce qu'il y a absence de contrôle. Je donne moi-même les éléments de réponse. Donc, je crois que au stade actuel, nous avons tous à fournir des efforts, mais surtout ceux qui sont appelés à mettre en application ce budget, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, je pense qu'on doit adopter des comportements citoyens pour permettre à répondre à la préoccupation de notre compatriote Gilles.
Pasi Sapamba, vous avez parlé du contrôle qui reste encore faible au niveau de l'Assemblée nationale, mais cela est dû à quoi?
Ben, écoutez, il y a des textes qui régissent les parlements et c'est au niveau de l'application des textes. C'est pourquoi je dis que tous les citoyens congolais doivent respecter les textes et le respect des textes s'impose à tous. Et donc, de ce côté-là, je crois que l'appel a été déjà lancé lors de nos interventions au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale qu'on doit renforcer les contrôles. Parce que c'est de ces contrôles que nous allons déceler les non-respects des textes, c'est de ces contrôles que nous allons constater le détournement des deniers publics, c'est de ces contrôles que nous allons voir les actes générateurs qui ne sont pas activés, c'est de ces contrôles que nous allons constater les écarts qu'il y a entre les montants qui ont été liquidés, les montants ordonnancés et les montants recouvrés. Et donc, la chaîne de dépenses elle-même, tout merci, comme la chaîne de recettes. Donc, il y a à boire et à manger. Je résume ça en un contrôle citoyen qui doit exister et qui doit permettre d'améliorer les recettes et même la gouvernance du budget.
Professeur Lucien Kasongo, on va se rendre à Isangi dans la province de la Tchopo pour écouter cet autre auditeur.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. Nous savons qu'il y a maintenant une sorte de conspiration entre l'Assemblée nationale et le gouvernement congolais contre le peuple. Le problème prioritaire du pays soit pris en compte ou pas, ce projet sera toujours jugé recevable par cet organe qui, aujourd'hui, d'après les révélations faites par certains d'entre ses animateurs, est parmi les institutions budgétivores qui tirent le pays vers les bas. Sans être pessimiste, il est clairement lisible que, malgré l'adoption de ces projets de budget, on parlera toujours de l'insécurité qui bat d'ailleurs les corps dans la partie Est, de l'insécurité alimentaire, du manque des infrastructures, etc. Parce que jusqu'ici, personne n'est fait allusion à la réduction du trait de vie des institutions.
Professeur Lucien Kasongo.
De la province de la Tchopo. Et avant d'entamer sa préoccupation, je voulais d'abord faire une petite mise au point, parce que tout le monde parle d'un budget à la hausse,
C'est la conséquence de la réforme du code minier initiée en 2018 sous le régime de Joseph Kabila. Et il y a également l'arrivée en maturation de plusieurs projets miniers qui aujourd'hui payent les impôts et les taxes et également l'embellie de nos métaux que nous exportons. Donc il n'y a pas un effort exceptionnel qui a été consenti par ce gouvernement.
Ça n'a rien à voir avec le contrôle de l'IGF.
L'IGF fait les contrôles. Là où vous savez, l'IGF a commencé à faire les contrôles dans les entreprises publiques. Mais à la fin, chaque jour, il y a ceux qui vont en prison, qui ont détourné des millions. C'est sous le contrôle de ces mêmes inspecteurs-là. Là, ce n'est pas un problème. Je voulais faire cette mise au point que l'accroissement du budget, c'est la conséquence logique de la réforme initiée en 2018 sous le règne de Joseph Kabila Kabange. Et voilà. Et en ce qui concerne les compatriotes de la Tchopo, il a fait un tableau, comme ce que nous avons dit. Et les réformes ou les budgets ne doivent pas être un budget de quelques individus. Le budget doit être le budget de toute la République démocratique du Congo. Il faut la répartition équitable de nos ressources. Quand nous avons examiné, madame, la loi de reddition des comptes, il y a dans certaines provinces où on n'envoie pas la rétrocession. Il y a dans certaines circonscriptions où il n'y a rien qui a été rétrocédé. Vous voyez ici, on a rétrocédé à 70%. Dans telle province, on rétrocède à 10%. Dans tel ministère, on a consommé les prévisions à 100%. Dans l'autre ministère, on a alloué que 10%. C'est des déséquilibres qui ne permet pas à la République de répartir équitablement les ressources. La conséquence, vous voyez vous-même les conditions de vie. Les magistrats en grève, les CCI en grève, ça démontre que le budget n'est pas réparti ou les ressources de la République ne sont pas réparties équitablement. Et il y a certaines... C'est surtout, si vous prenez le fonctionnement des institutions avec 33% du budget, vous voyez vous-même ce que ça donne comme poids sur le budget de l'État. Si les institutions doivent déjà consommer à leur niveau 33%, c'est excessif. Voilà pourquoi nous voulons que la répartition soit équitable, que tout l'argent ne se consomme pas seulement dans la ville-province de Kinshasa, les sièges des institutions. Nous voulons que l'argent arrive dans nos villages, dans nos territoires, dans nos groupements.
Cet auditeur d'Isangui est quand même déçu de voir que même vous, parlementaires, personne n'ait fait allusion à la réduction du train de vie des institutions.
Ça a été toujours le souci de tout le monde. Et on en a perdu. Si vous avez suivi les débats qu'il y a eu, on a demandé à ce qu'on ne puisse pas ajouter un seul rang dans les frais de fonctionnement des institutions au cours de ces budgets, que nous puissions revoir les autres rubriques qui n'ont pas été favorables. Aujourd'hui, on milite pour la sécurité. Il faut donner le moyen. On milite sur le social. Le social, c'est donner de l'eau, c'est donner des routes à la population, c'est donner de l'électricité, c'est donner les bonnes conditions de travail de magistrats. Madame, quand vous arrivez dans les provinces, dans les territoires là où il y a les tribunaux de paix, les conditions de travail de ces magistrats ne sont pas bonnes. Et même quand nous demandons qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, nous devons commencer aussi en tant que l'État, donner les moyens conséquents, améliorer les conditions de vie pour qu'en contrepartie, nous puissions être exigeants envers eux.
Maître Yves-Michel Biassalou, on va prendre aussi pour vous ces derniers auditeurs qui nous appellent depuis Mbujimayi au Kasaï oriental.
Lionel Nathan Kachama, depuis Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Je remercie le gouvernement pour les efforts consentis, surtout dans le respect des délais constitutionnels pour le dépôt du projet des finances de 2023 et aussi l'Assemblée nationale pour les questions pertinentes ou les préoccupations des élus face à la situation qui prévaut au niveau de notre pays. Le record de 14 millions est vraiment élevé. Mais moi, j'étais en train de voir que si chaque institution devait respecter les rubriques du budget lui attribué pour que nous ne puissions pas déplorer des cas de dépassement budgétaire dans chaque institution, ça pourrait nous aider à accomplir les réalisations tant attendues par ce budget. Ce budget étant un budget prévisionnel, nous demandons à ce que chaque institution puisse se donner cette discipline-là, de respecter les délais, de respecter plutôt les rubriques, le montant lui alloué par le budget, afin que les dépassements budgétaires puissent être évités. Voilà ma contribution.
Maître Yves-Michel.
Oui, j'ai bien suivi, madame, l'intervention de notre compatriote Kachama de Mbujimayi. Je crois que sa préoccupation est plus liée sur l'exécution budgétaire. Son souci est que les rubriques soient considérées comme telles le 1 dollar qui a été affecté ou prévu pour telle rubrique soit affecté à ces rubriques-là.
Pour cet auditeur, il faut éviter les dépassements budgétaires, comme on en constate malheureusement dans ce pays. Vous apprenez que telle institution est en dépassement budgétaire, telle autre en dépassement budgétaire.
Alors, effectivement, madame, on est en dépassement budgétaire, c'est lorsqu'on n'a pas respecté ce qui a été prévu. Lorsqu'on vous demande d'affecter 1 dollar pour une rubrique et vous ne le faites pas, vous affectez ailleurs, vous devez être en dépassement. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, le respect de l'exécution budgétaire, c'est quelque chose de très pertinent. Je voudrais revenir, madame, sur quelque chose qui, certaines choses qui ont été soulevées ici. C'est en complément d'informations de la réponse que je suis en train de donner. Vous avez parlé tout à l'heure de la réduction des institutions. Mais madame, il ne faut pas se faire allusion. Vous avez vu combien de fois il y a eu des initiatives des gouvernements provinciaux. Et lorsque vous allez à la source pour demander les raisons de ces initiatives, vous allez voir, c'est parce que les députés n'ont pas eu l'argent, on ne leur a pas payé ceci. L'honorable Patsisa Pamba venait de dire tout à l'heure que le contrôle politique est plus important. Et c'est vrai. Heureusement qu'il a rectifié lui-même parce que, en ce qui concerne les députés, vous allez voir que ils ont le pouvoir de contrôler l'exécution budgétaire parce qu'ils ont le droit de suivre de quelle manière le gouvernement affecte les fonds et en exécution de ce qui a été prévu. Malheureusement, ça ne se fait pas. Et puisqu'il a parlé de contrôle politique, en réalité, c'est pas un contrôle politique parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons toujours dit que le député n'est pas un politicien. Au fait, c'est un citoyen. Il faut plus parler de contrôle citoyen, c'est cela. Donc, si au niveau des députés du peuple, ils prennent au sérieux le contrôle parlementaire, je pense que nous allons éviter les dérapages. Mais malheureusement pour nous, madame, c'est que lorsque maintenant l'Assemblée nationale commence à ordonnancer ensemble avec le gouvernement, c'est ça le problème. Hein, lorsqu'on doit affecter des fonds et que les députés sont greffés sur ces affectations, ça fait des problèmes et ça, nous ne cessons de les décrier chaque jour. Et ça, c'est lié au texte. Tout à l'heure, l'honorable Patsisa Pamba a parlé des textes qui régissent le Parlement. Malheureusement, dans le règlement d'ordre intérieur, on ne parle pas de l'homme député. Il n'a pas d'éthique parce que le règlement d'ordre intérieur n'est pas un code d'éthique. Il faut absolument, heureusement que c'est déjà en gestation, un code d'éthique approprié qui va devoir fixer le comportement des députés vis-à-vis, n'est-ce pas, du gouvernement qui est censé exécuter les budgets. Je crois que là, nous avons un sérieux problème, mais heureusement que déjà les initiatives sont déjà prises pour que à l'Assemblée, à la législative prochaine, nous ayons un code d'éthique clair, qui va permettre à ce que ce travail soit bien fait. Je pense que nous, en tant que citoyens, nous veillerons sur ça pour que l'applicabilité de ce texte-là, de code d'éthique des députés, puisse être votée dès le début de la législature. Je crois que ça sera une solution pour le reste.
Patsisa Pamba, nous sommes à la fin de notre émission, mais il y a un auditeur qui vous pose la question, hein, adressée à vous, Monsieur Patsisa Pamba. Cet auditeur nous écrit depuis Kalemie, dans la province du Tanganyika. Il demande que gagne concrètement le citoyen congolais dans l'accroissement de ce budget.
Bien, je pense que cette question aurait dû être posée au gouvernement de la République qui gère la politique salariale, parce que au stade actuel, vous avez senti que tous nous avons émis des inquiétudes, bien que nous ayons reçu le budget, parce que moi, certainement, dans mes interventions personnelles, vous avez suivi que j'aurais voulu qu'on dise, par exemple, que cet accroissement permettrait autant d'emplois à créer, cet accroissement permettrait autant de pourcentages dans l'amélioration de la vie ou des besoins sociaux de base. Et je ne peux pas, n'ayant pas les statistiques et n'ayant pas les chiffres avec moi, répondre avec précision à notre compatriote. Le plus important, c'est l'effort que nous devons tous fournir. Et cet effort concerne essentiellement, madame le journaliste, sur la mobilisation des recettes, sur la culture fiscale qui doit être le point d'ancrage de tout citoyen. et surtout auprès des opérateurs économiques. Il faudra arrêter avec la délinquance fiscale. Il faudra donc la rationalité dans la gestion. Créer un code d'éthique pour les députés, non, il faut un code d'éthique pour tout citoyen, parce que le député n'est pas un citoyen exceptionnel. Je sais que par moment, surtout ceux qui ne sont pas au Parlement, ils disent parfois des choses qui ne sont pas correctes, mais ce n'est pas ici l'occasion de le dire. Un code d'éthique pour tous les citoyens, je suis d'accord, mais tout ce qu'il faudra faire, c'est que chaque citoyen doit prendre conscience que nous avons que ce seul Congo. Et en dehors de ce Congo, nous n'avons pas un autre pays où nous pouvons mieux vivre. Et donc, il nous revient à nous tous d'abandonner toutes les mauvaises pratiques relatives surtout aux antivaleurs, à quelque niveau que ce soit dans l'application des textes, que ce soit dans le recouvrement des deniers publics, que ce soit dans toute pratique qui puisse permettre à ce que le citoyen lambda puisse se sentir à l'aise dans son pays. Et donc, c'est à tout citoyen que je fais appel pour un changement radical de comportement et de mentalité.
Merci. Merci Zapamba. Professeur Lucien Kasongo, ça sera aussi votre conclusion. Que faut-il pour que la population ressente l'impact? C'est vrai qu'il y a eu accroissement, mais comment ressentir cet impact positif de cet accroissement sur les vécus de la population?
Merci madame. Comme vous le savez, nous avons insisté sur la répartition équitable de ces ressources, même s'il y a des milliards qu'on va réaliser, aussi longtemps que la répartition n'est pas équitable, il y a là où on privilégie les uns, où on défavorise les autres, et la population ne se retrouvera pas. Vous savez vous-même, quand on dit qu'il y a des détournements, on gère avec des corruptions, et ce sont ces mots-là qui gangrènent notre société, qui ne permettront pas qu'on puisse atteindre l'objectif de donner, d'améliorer les conditions de vie de la population. Le souci de tout député, de tout gouvernant, c'est de donner le meilleur de lui-même à ce que la population puisse se retrouver. Et nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de bonnes conditions de vie de la population. Nous voulons que le panier de la ménagère puisse être amélioré. Et vous-même, vous voyez, si vous descendez sur le marché, vous allez vous rendre compte que les prix ont galopé, les conditions se détériorent les jours, et le souci, c'est de voir les conditions de vie de la population être améliorées. Pour arriver à améliorer ces conditions de vie, nous avons besoin de la gestion orthodoxe des recettes, et il faut éviter les détournements, il faut éviter la corruption dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi il faut que nous ayons l'éthique à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des assemblées, que nous ayons l'éthique, que nous ayons les modèles, ceux qui ont le souci du bien-être de la population. Ce sont ces gouvernants dont nous avons besoin aujourd'hui.
Merci.
Parce que les défis à relever sont énormes, il faut des sacrifices, et pour arriver à ces sacrifices, il faut avoir les hommes capables de relever ces défis-là.
Merci, professeur Lucien Kasongo. Maître Yves-Michel Biasalou, votre conclusion.
Merci beaucoup, madame. Moi, je suis un peu écœuré, là, parce que lorsque j'entends quelqu'un, en fait, l'honorable Lucien Kasongo, dire, par exemple, que la population ne se retrouvera pas. C'est comme si la population est une autre personne et eux, les députés, sont d'autres personnes. Mais la population est identifiée par les députés. Les députés représentent la population. Donc, une telle parole ne sortirait pas des bouches des députés parce qu'il leur appartient à eux, en représentant la population, de se battre pour que des antivaleurs comme la corruption, le détournement qui ont été bien cités par le professeur Louquet, puissent ne pas arriver. Or, lorsqu'on dit que la population ne se retrouvera pas, alors quel est le travail des députés en ce moment-là? Ils sont là pour ça. Voilà pourquoi nous avons dit tout à l'heure, madame, il faut un code d'éthique pour les députés. On doit insister sur cette question-là. Parce que lorsque les députés commencent à gérer avec le gouvernement, les choses ne marchent pas. C'est ça le cas. C'est ça le cas maintenant. Donc, il faudrait que les députés se démarquent. Il doit savoir que c'est lui qui est appelé à contrôler, c'est lui qui exécute et il a la sanction avec lui contre la personne qui exécute. Aussi longtemps que le député ne se souviendra pas de ses pouvoirs, ça sera toujours malheureux. Voilà pourquoi nous enregistrons des phrases comme ça où on dit la population ne se retrouvera pas et un député est content de le dire. Ça, c'est vraiment dommage.
Merci.
Je suis vraiment désolé. Donc,
merci,
il faudrait
maître.
Absolument
revoir ces choses-là.
Merci, maître Yves Michel Biasalo, Dialogue en Congolais, c'est fini. Pour ce soir, merci à Guy Maté qui a réalisé ce magazine. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.